Marseille. 3 mois de voyage pour arriver à Saigon. Mon frère et ma soeur aînée sont nés à Saigon. Mais quand les Japonais sont arrivés, mon père a décidé de repartir en France. On m'a toujours dit que j'avais été conçu dans le détroit de la Sonde, entre la Malaisie et Sumatra. Comme sur la plantation, il n'y avait pas d'école, on a mis mon frère chez les religieux et ma soeur et moi au couvent des oiseaux. J'étais vers l'éternel avec la méthode du persastor. Ma mère a gardé dans mon cahier, c'était une ruche d'abeilles. Une abeille plus une abeille égale 2 abeilles. On passait les vacances sur la plantation. En 1950, mon père dirigeait une plantation à Crec, au Cambodge, encore colonie française. Un soir, sur la plantation d'à côté, à Djoup, il y avait un club pour les planteurs, avec cocktail pour les adultes et Weston pour les enfants. On nous a projeté la dernière cartouche. Quand ça a commencé à tirer sur la diligence dans le film, j'ai entendu des coups de feu qui venaient des alentours du club. Vers la piscine, on était attaqué par les féminines. Mon père est allé chercher une arme française qu'il n'est bien sûr jamais vue. Je me suis caché derrière le bar, mon frère dans la cuisine. Ma mère nous a cherchés, elle a trouvé ma soeur, mais pas nous. Elle s'est enfuie en voiture. Les tirs se sont arrêtés. Je suis sortie du bar et j'ai vu 14 morts avec du sang partout. Sacré traumatisme, quand même. Ensuite, mon frère et moi avons été enlevés par les villes. On nous a emmenés dans la forêt, près de Crèvecoeur, dans la jungle. On essayait d'éviter les sangsues, les migales, les serpents. On est resté 8 mois prisonniers dans ce camp. J'étais la seule petite fille. Mon frère était entraîné avec les enfants soldats et le commissaire politique nous faisait la classe tous les matins. Pendant ce temps, ma mère harcelait le gouverneur à Saigon pour me faire libérer. Il n'a jamais rien fait. Au bout de 8 mois, nous avons été libérés grâce aux monstres de la pagode de la plantation de mon père. Ils ont dit que ce n'était pas normal de garder les enfants prisonniers. Libérés, nous rentrons en France. Mes parents me remettent au couvent des oiseaux à Blois qui pratiquent la méthode Montessori. Après le bac, j'ai fait prof et petit à l'université. Je voulais faire du cinéma. Puis finalement, j'ai dit à mon père que je voulais faire de la photo. Il m'a dit, c'est ridicule, tu veux faire des photos de mariage toute ta vie? J'ai dit, bah pourquoi pas. Et j'ai commencé à travailler dans un labo. J'avais essayé dans un studio, mais on me disait chaque fois, t'es une femme qui est incapable de chanter des trucs pour moi. J'ai donc travaillé 2 ans dans un labo, dans 2 labos, pour développer des plans films, et je prenais des photos le week-end. Mes premières photos étaient des monuments de Paris. Des photos sans aucun intérêt. C'était bien. J'ai commencé à voyager dans les années 80 en suivant mon mari qui travaillait pour le ministère du Commerce extérieur, Chine, Birmanie, Indonésie, Malaisie, Singapour, les Philippines. Je suis convaincue maintenant que je tournais autour du Cambodge. Mais il y avait les mers rouges, je ne pouvais pas y tourner. Il a fallu que j'attende 50 ans avant de pouvoir revoir le pays de mon enfance. Mes premiers reportages paraissaient dans le magazine Sentinelle. J'écrivais sur le texte. Un jour, Christian Poujol m'a appelé pour travailler à Libération. C'est là où j'ai connu Serge Danet, Gérard Lefort, Michel Casson. Gérard et Michel voulaient que l'IP parle de la mode. C'est comme ça que j'ai commencé à photographier les défis. Il y avait très peu de femmes photographes. J'ai connu Christian Lacroix chez Batou. J'ai photographié les défilés de Jean-Paul Gaultier, Thierry Muller, Azéline Anaya, Adeline André, Chanel. Je photographie la mode comme un documentaire sur le terrain, comme une correspondance de guerre, une guerre en antenne, une guerre de tranchées. J'invente des cadrages qui font école en contre-plongée. Je coupe les têtes, je prends des détails. Des chaussures, une main. Je bouscule le cadre en faisant une bouche parfaite d'une main nue, la vedette d'une photographie. Je m'en sers des corps. à la mode une épreuve de dérision. Pour l'aider, je faisais les photos en noir et blanc, ce qui étonnait beaucoup les couturiers qui travaillaient sur la couleur. Ils pensaient tous que je les provoquais. Je suis à la limite de l'abstraction. Je photographie la mode, mais surtout, je la sublime, comme le titre de mon livre paru chez Actes Sud. J'ai aussi photographié dans les ateliers. J'étais si, car pour la haute couture, il n'y avait pas de machine à coudre. Il fallait plusieurs heures pour coudre une seule boutonnière. Dans toutes les maisons, il y avait ce qu'on appelle l'accessoirisation. Une séance où les mannequins viennent et on leur choisit les accessoires et les bijoux qu'elles vont porter. Une fois, j'étais chez Chanel, j'attendais dans le salon, et Icar Lagerfeld est descendu. Il m'a dit, tu travailles pour qui? J'ai dit, pour Vogue. Il a dit, c'était des journaux de merde. Je ne l'ai pas contredit. Le directeur artistique de Marie-Claire m'a demandé si je voulais faire une série de mode. Allez, des séries de mode. À l'époque, on nous envoyait dans différents pays. Les cadrages avaient vraiment une allure de reportage. Comme sur une photo que tout le monde aime, retour d'enterrement en Martinique. Avec la mannequin Adeline Ocajal. Actuelle, m'a envoyé photographier le deuil gîte à Hyderabad, en Inde. Dans la procession, les fidèles se flagellaient avec des lames de rasoir. Mon sac était plein de sang. Comme j'étais fan de cinéma, à Calcutta, je suis arrivé avec une lettre de Serge Dallet pour rencontrer Satyajit Ray. Comme nous nous sommes vus avec mon interprète, je lui ai demandé où il avait tourné le salon de musique. C'est à 200 km de Calcutta, au bord du Gange. J'y suis allé. Le film a été tourné dans un palais. Je me suis inspiré des cadrages de Satyajit Ray. Au début, j'ai eu peur que c'était un camp militaire. Mais comme on ne me refuse jamais rien, j'ai réussi à faire des photos. Actuelle, m'a renvoyé à Calcutta pour la construction du métro avec des escaliers mécaniques. C'était compliqué pour les gens de prendre l'escalator. À ce moment-là, Satyajit Ray tournait son dernier film. Ah. Puis pour Libération, je pars au Japon avec Serge Dallet pour rencontrer Kurosawa. On est allé chez lui, car Serge voulait l'interviewer, il était en train de préparer. À la fin des années 80, mon ami Jean-Jacques Mandel m'offre l'Afrique fantôme de Michel Delis. Ce n'était pas mon idée première d'aller en Afrique, mais en lisant ce livre, j'ai eu l'idée de refaire le trajet de la mission ethnographique de Marcel Griaule de Dakar à Djibouti. En 1988, sort mon livre sur les traces de l'Afrique fantôme, de 200 photographies en noir et blanc, et sur la couverture, la fameuse photo du pêcheur posé. En 1984, je décide de retourner au Mali, que j'avais déjà apprécié en faisant le voyage de Dakar à Djibouti. Je pars avec la journaliste Hélène Lee pour photographier Sadi Keïta et Maurice Kanté. Je décide de suivre Maurice Kanté pendant sa tournée. Son tourneur s'appelle Mama Sissoko. Le directeur du centre culturel me dit d'aller le voir pour qu'il m'aide. Quand je rencontre Mama Sissoko, il me dit qu'il n'emmène pas les conquises. J'ai quand même réussi à suivre la tournée avec les musiciens, qui sont tous guinéens, qui m'ont appris énormément de choses sur l'empire médiéval au Mali, l'empire mandingue et sur le sens des chansons. Après la tournée, je reste à Ségou pour photographier les concerts du Super Biton dont Mama Sissoko est le guitariste. Je suis le groupe comme c'est bien joué en France et en Allemagne, de l'Est et de l'Ouest. Tous les ans, je retournais au Mali pour animer des stages photo et mon ami photographe Jean-Paul Cissé, ex-stagiaire, m'a fait connaître Ségou Keïta et Malik Sidibé. Je projette à un les photos de Ségou Keïta. L'animation musicale est faite par Mama Sissoko. Malik Sidibé a sa première exposition à Nantes. les opérait le mercure, car tous les médicaments avaient disparu. Ensuite, je suis allée à la banque, où j'ai photographié des femmes avec leur cervelle et leur crâne, et pareil pour leur bébé. Et j'y ai aussi photographié une grande trace de sang qui a fait la lune de la libération. En 1994, Gérard Lefort part à Tombouctou sur le tournage de Wadi de Souleymane Cissé, que j'avais déjà photographié à Cannes à l'occasion de son prix pour le film. C'était un grand ami qui nous a quittés. Le producteur de Raoul Peck me propose de venir faire des photos pendant le tournage de Lumumba au Mozambique. Il tourne à Beira pour découvrir les ateliers de chemin de fer. Celui qui relie Beira à Harare au Zimbabwe. Zimbabwe, donc, pays sans port, 425 années. Je retourne un an après à Beira pour photographier les ateliers. J'ai mis 3 semaines pour avoir la permission, mais j'ai réussi. Ce n'était pas fini. Ensuite, je suis allé en Afrique du Sud, car Claire Denis me dit qu'à Durban, il y a la maison de Gandhi qui a commencé sa carrière là-bas. Il y a 1 million d'Indiens qui vivent à Durban, et sa maison était en ruine. Par chance, sa fille a obtenu de l'argent pour restaurer la maison. Je retourne à Durban plusieurs fois pour photographier les foyers d'hommes et de femmes, les bidonvilles, les sans-domains, le quartier indien. J'ai eu de la chance, car j'ai même pu photographier Nelson Mandela. En 1992, après l'Afrique fantôme, je décide d'aller dans une région où il fait très froid, où il n'y a pas d'arbres, comme au Sahel. Ce sera la toundra, en Sibérie, au-dessus du cercle polaire. Mon rêve est de rejoindre le détroit de Béry. Je savais qu'il y avait du chamanisme dans cette région. Je m'arrête à Saint-Pétersbourg pour rencontrer une ethnologue russe qui vit dans un appartement communautaire. Je commence mon voyage à Samara et à Yamal, là où il y a Gazprom maintenant. Je vis chez les éleveurs de rennes, puis je passe à Taïmyr et je découvre Norilsk, ancien goulag, créé par des ingénieurs allemands. Par chance, j'habite chez le chauffeur du directeur du tourbillon qui me présente le responsable de la photo et j'ai pu aller photographier dans toutes les usines. À Taïmyr, j'étais dans un petit village où il y avait des petits peuples qui venaient de Mongolie. Il n'y avait pas d'hôtel, j'habitais chez les gens ou dans les écoles. Pour circuler, on prenait une auto-chemise ou un hélicoptère. Il y a un camp militaire au nord de Taïmyr. L'hélico nous a amenés dans une île à 80 km du pôle nord où il y avait des mines d'or. Et je suis parti ensuite vers le détroit de Béring par le port de Pérec. Avant le détroit, je vais à l'UNR. J'habitais chez les gens et j'ai assisté à la chasse aux morses qui se faisait à l'époque au jardin. Je retourne à Pérec, je vais voir responsable de la capitaine pour lui dire que je veux rejoindre le détroit de Béry. Il contacte par avion en Morse Sergei, le capitaine du brise-glace, qui dit « Oh, des Français, ça me fait plaisir, je n'ai pas vu. » Il est effectivement arrivé 4 jours plus tard et nous a embarqué avec Volodia, mon traducteur, et on a croisé le détroit de Béry. Grâce à la manger, il y avait un piano. Je demande à Volodia qui en joue. Il me dit, je vais demander au capitaine. Le capitaine est descendu et a joué une Chopin. C'est ça, la Russie. Sergei voulait que je reste dans le brise-glace, mais je lui ai demandé de me déposer à la Matria. Là, on a fait du stop avion. On est rentré à Moscou dans un avion militaire qui a servi pour transporter des chars pendant la guerre d'Afghanistan. Ensuite, j'ai passé 10 ans à photographier les appartements communautaires de Saint-Pétersbourg. J'en ai fait un livre et un film pour lequel j'ai eu 2 prix. En 2011, j'ai eu le prix d'Adrien Lachapelle. France, où j'ai photographié 45 familles à côté des futurs gardes du Grand Paris et à Dauphine dans des logements sociaux. Puis, j'ai fini par l'usine du tunnelier en Allemagne, Ehrenkneipe. Comme j'ai écrit à Biennale de Bamako et qu'il y avait des problèmes de ma vie, en 2013, j'ai décidé de la faire venir au pavillon du carré de Montmoine et ça s'est intitulé Bamako Photo in Paris. J'ai été aussi commissaire pour le musée du Quai de Rondy, Photo Quai 2011, où j'ai fait venir 46 photographes du monde entier qui n'avaient jamais exposé en France. Des Singapouriens, Laotiens, Cubains, Colombiens, Russes, Tanzaniens. L'exposition a été inaugurée par Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture. J'ai aussi dirigé la Biennale de photographie de Londres, Brabant ou Laos, organisée par l'Institut français. Actuellement, je continue à faire des photos, notamment dans les appartements des gens. Et là, je prépare un autre livre sur le Japon et sur Christian Lacroix. Je fais aussi des lectures de portfolio pour aider le jeune photographe. Récemment, j'ai proposé à l'Académie deux photographes magnifiques, Augustin Dupont et Maya Thiel. À Bangkok, j'ai aussi photographié les petites princesses, les filles de Bourges, tout un groupe d'Indonésiens portant les hijabs dans un grand magasin spécialisé des vêtements musulmans, une des jeunes femmes était tout habillée en hiéroglyphie. Je les ai exposées dans une galerie à Bangkok. Voilà, c'est tout pour l'instant. Voilà comment parle François Fouillier, tout cru. Tes photographies sont toujours d'une beauté saisissante, des coups de poing de vérité, d'émotion, avec une science inouïe du cadre, de la lumière, et souvent du tout, je ne sais pas parler. Des photos d'une esthétique puissante, mais jamais gratuite. Toujours au service d'une vision qui veut montrer l'humanité de ceux qu'on ne voit pas, qui ne sont rien, mais dont les photos disent qu'ils sont celles de la lumière. Bienvenue parmi nous, chez François Fouillier, dont l'œuvre a su tisser les liens fragiles et puissants entre les peuples et les lieux.